J'aimerais remercier Bernard pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Nous avons travaillé sur ce type de problématique à Genève depuis de très nombreuses années. Et j'aimerais indiquer le nom de mes collaborateurs. Ceux de Genève sont des gens qui faisaient un master ou une thèse ou des post-docs à l'Université de Genève. Il y a une collaboration avec l'Université de Wrocław en Pologne, donc André Pekalski. Et vous reconnaissez ce nom de Zoltán Rád, c'était celui qui était mentionné préalablement sur les propriétés du front. Nous avons travaillé avec lui et d'autres personnes à Budapest, Bourg, à la fois à l'université et à l'école d'ingénieurs de Budapest. Eux ont fait surtout les travaux expérimentaux. Ce sont des chimistes en grande partie. Mon séminaire est organisé de la façon suivante. Premièrement, vous allez voir que le texte est souvent en anglais, mais les équations, je vous promets, sont en français. Une brève introduction au sujet. Ensuite, la formation de motifs dans les systèmes RD. Et une première classe, c'est les patterns de Turing. Et l'autre classe, plus importante, plus originale, c'est les patterns, les motifs formés dans le sillage d'un front de réaction-diffusion. Et je vais ensuite extrapoler ces cas simples à des cas plus compliqués. Et Drew est... conclure sur certaines remarques génériques. Voilà, donc c'est les deux classes de structures que je vais vous discuter. Et la première, ce sont les patterns ou les motifs de Turing. Dans un article extraordinaire de Turing en 1952, c'est le Alan Turing de l'informatique du code des Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est le même Turing. Il a considéré un système de deux espèces, le C1 et le C2, qui dépendent de l'espace et du temps, et qui obéissent à ces équations que vous connaissez bien maintenant. L'équation qui décrit que le C1 diffuse avec un coefficient de diffusion D1, idem pour C2 et D2. Et là, il y a un terme de réaction, F de C1, C2, qui est en général un terme qui est non linéaire. Et le problème que l'on se pose, c'est le suivant. Donc, on suppose que le système a un uniforme, atteint un état uniforme, stationnaire, que j'appelle de CJ0. Et je me demande la question, sous quels critères cet état est stable ? Alors, qu'est-ce que je fais? J'écris que les concentrations des espèces I, C, I, de R et de T, c'est la valeur uniforme que j'ai atteint, plus un petit écart par rapport à cette valeur uniforme. Et j'écris les équations pour cette évolution des C minuscules, qui font appel à ces facteurs R, I, J, qui sont les premières dérivées de cette fonction non linéaire FI par rapport au CJ, estimée au point uniforme. Et maintenant, je suppose qu'il n'y a pas de diffusion, et je regarde et quand cet état uniforme est stable. Donc je fais une analyse linéaire de stabilité, je ne vais pas rentrer dans cet algèbre en détail. Et ensuite, j'ai certains critères à remplir pour que cet état soit stable. Et ensuite, je considère le problème inhomogène avec la stabilité de perturbation inhomogène en présence de diffusion. Donc j'écris ces variations CJRT en transformée de Fourier en mode de vecteur d'onde K. Et ce qui compte ici, c'est les fréquences oméga k associées au mode k. Donc la partie réelle de ce oméga k est négative. Cette solution est amortie, donc la solution est homogène et stable. Si au contraire, le oméga k a une partie réelle qui est quelque chose de positif, j'ai un mode k qui va croître dans le temps, dans l'approximation linéaire, et je vais avoir une instabilité. Alors, si je regarde ça plus en détail, je ne vais pas faire ces détails de façon qui sont analytiques, j'ai la situation suivante. En fonction de ce paramètre grand delta de x, x c'est le vecteur d'onde au carré, c'est la variable x dans ce diagramme, je regarde cette forme-là en fonction d'un paramètre de bifurcation. Et si ce paramètre est plus petit que 0, alors je suis dans le cas où les oméga, où les valeurs réelles des oméga k sont négatives, donc l'état uniforme est stable. J'atteins éventuellement, en changeant la valeur du paramètre de contrôle, qui est une fonction de la réaction en question, j'atteins une valeur critique, avec une valeur critique de xc. Et xc, c'est donc le carré du paramètre lié au mode de vecteur d'onde qui est le k, le petit k, et j'ai la valeur de ce paramètre, donc c'est le mode qui va devenir critique en premier. Et voyez que cette valeur de k est intrinsique, donc elle n'est pas fonction, elle n'est pas liée à la géométrie du système aux conditions au bord, mais c'est quelque chose qui dépend de façon intrinsèque des paramètres du modèle de la réaction et de la diffusion. Et si maintenant je crois encore cette valeur du paramètre de contrôle, alors je n'ai pas un mode qui est instable, mais j'en ai toute une plage, et le mode choisi sera dû à un choix d'une approche qui est non linéaire. Donc voilà en gros. Alors si vous regardez ce que ça veut dire maintenant, quand j'ai instabilité de ce mode, eh bien, on va supposer que ce facteur R1 est positif. Ça veut dire que j'ai affaire à une réaction autocatalytique du mode C1, donc du produit C1. Donc j'ai affaire à un processus autocatalytique, effectivement, mais le processus 2, au contraire, vu que R1 plus R2 doit être plus petit que 0, alors R2, si R1 est plus grand que 0, R2 doit être plus petit que 0. Ça veut dire que cette espèce chimique numéro 2 est une espèce inhibitrice et on a une réaction chimique entre un autocatalytique et entre un activator, on peut appeler ça un activator, une substance activatrice et une substance inhibitrice. Et si vous regardez le critère à remplir, qui est ce critère-là, ça veut dire que ces équations sont remplies uniquement si le D2 est plus grand que D1. Donc, il y a création de pattern de Turing. S'il y a uniquement une compétition entre une espèce inhibitrice et une espèce activatrice, et que le coefficient de l'espèce inhibitrice est plus grand que celui de l'espèce de l'espèce activatrice, de l'activator. Donc c'est une condition bien spéciale, c'est sous ce type de condition-là seulement que vous aurez affaire à des structures de Turing où l'état homogène n'est plus un état qui est stable. Voilà une application bien connue à des réactions chimiques, c'est des anciennes expériences qui ont été faites par le groupe de Sweeney au Texas. Et vous voyez qu'en fonction des concentrations des deux espèces ou des coefficients D1 et D2 de diffusion, vous pouvez avoir une formation en spot ou une formation en stripe. Un exemple plus courant que vous voyez chaque jour dans votre vie de tous les jours, c'est les peaux que vous voyez sur les animaux. Là, c'est un jaguar, mais il y en a d'autres que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, ce qui se passe, c'est que les cellules sur la peau des animaux émettent des pigments. Et il y en a deux types de pigments. Il y en a le premier type de pigment, quand ça interagit avec donc, les poils des animaux, ces pigments diffusent, donc évidemment, et réagissent. Et un premier type ce pigment, il favorise un poil foncé, alors que l'autre, il favorise un poil clair. Alors vous voyez clairement dans le cas du jaguar, il y a une instabilité du haturing et vous n'avez pas un poil de couleur uniforme et vous avez certaines régions qui sont plus foncées que d'autres. C'est aussi le cas pour d'autres espèces. Vous voyez les zèbres, vous avez ici une structure en raie. Aussi, c'est instable de Turing. Alors que vous savez très bien qu'il y a des animaux qui ont un poil uniforme, c'est le cas des éléphants qui sont gris ou roses, mais qui sont de couleur uniforme et qui n'ont pas une instabilité de Turing. Alors que les girafes qui sont voisines peuvent être instables de Turing et ont une peau, une fourrure qui forme des patterns non triviaux. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de cette première partie ? C'est que dans certains cas particuliers, la diffusion peut être un facteur qui déstabilise un état homogène. Et c'est quelque chose qui, a priori, était pour moi étonnant, en tout cas, de supposer que le fait que les composants diffusent, ça engendre une instabilité. Alors, vous pouvez penser que le fait que ça diffuse, ça va homogénéiser mieux les choses et ça va rendre les structures uniformes plus stables. Donc ça, c'est la première classe de problèmes dont je voulais vous entretenir. La seconde classe, c'est les motifs formés dans la suite d'un front de réaction et de diffusion. Et c'est des expériences qui datent très récemment, de 1896. Et ce n'est pas une faute de frappe, c'est effectivement 1896, et c'est appelé les structures de Lisegang. Et je vous dis deux mots sur la formation historique de ces structures de Lisegang. Il y avait une très petite industrie, une PME, dans une ville allemande à l'époque, qui était experte dans la fabrication de projecteurs et de rétroprojecteurs. Et si vous allez en Allemagne dans les universités, vous trouvez encore fréquemment un rétroprojecteur de la marque Lisegang. Mais le père Lisegang, qui devenait de plus en plus âgé, a dit à son fils le plus âgé, il faut un peu que l'on se renouvelle maintenant. Et on ne pourra pas faire des projecteurs encore pour deux siècles, mais il faut essayer de trouver une autre ligne de production. Et il encouragea son fils, du nom de Julius, à faire de la photographie et de la chimie, parce qu'il dit qu'il y a un grand avenir dans la photographie. Et il n'avait pas tort, effectivement. Alors, ce Julius préparait certains films de gélatine, et il préparait un de ces films de gélatine avec à l'intérieur, qui diluait du nitrate d'argent. Très bien. Mais il fit une bêtise, il renversa une éprouvette sur son plan de travail et le produit qui était renversé de son éprouvette réagit avec le nitrate d'argent format en précipité. Donc il y avait une tache rouge, brune rouge sur son échantillon, sur sa plaque photographique et il était très fâché d'avoir fait cette bêtise. Mais ce Julius était surtout intéressé à être un acteur plutôt qu'un chimiste. Et c'était la fin de l'après-midi, il devait aller prendre le rôle, il jouait un rôle dans la pièce du petit théâtre amateur de sa cité. Et il dit, bon, c'est bête que j'ai fait ça, mais je verrai ça demain, quoi en faire, la façon de réparer. Donc, il allait au théâtre, il rentra chez lui, le jour d'après, il retourne au labo et il regarde ce qu'il observe. Et il y avait une tache rouge qui était toujours là, mais un peu plus grosse. Mais il y avait une zone sans précipité, puis un anneau rouvrant, puis une zone non précipitée et un deuxième anneau un peu plus large, etc. Et il fut très étonné par ça. Il en parla à des amis chimistes qui ne savaient pas de quoi il s'agissait. Donc, ils écrivèrent un article dans un journal allemand de chimie physique. Et cet article est reconnu sous le nom des anneaux rouges de Lisegang. Et c'est le début d'une saga qui va durer jusqu'à aujourd'hui, Et c'est un travail qui était très innovateur. Donc, en quoi c'est intéressant? Parce que c'était une erreur de manipulation, ce n'était pas voulu. Et c'est cette erreur de manipulation qui a amené un nouveau phénomène. Et c'est une stratégie qui apparaît assez souvent en science. Ce n'est pas ce qu'on cherche que l'on trouve, mais c'est par hasard, en faisant une bêtise, que l'on trouve des choses nouvelles. Voilà, alors, pour faire cette expérience, vous n'avez pas besoin de répéter les bêtises de Julius Lissegang. Vous pouvez faire ça dans votre salle de bain très facilement. Vous achetez une éprouvette que vous remplissez avec du gel, et dans ce gel, vous mettez un certain produit chimique, par exemple le nitrate d'argent, que vous diluez avec une concentration de B0. Et au sommet de l'éprouvette, vous mettez un autre électrolyte A en concentration A0 qui est beaucoup plus grande que B0. Alors, il se passe quoi? Vous choisissez les produits chimiques A et B de telle façon à ce qu'ils réagissent de façon irréversible, et A plus B donne un nouveau produit chimique appelé C qui peut être le précipité, etc. Et vous préparez votre éprouvette et vous allez vous coucher, et vous attendez le jour d'après et vous voyez essentiellement ce type de structure. C'est-à-dire il y a certaines bandes qui sont formées, certains anneaux, comme c'est dans une éprouvette, de précipité. Puis il y a une zone claire, il n'y a pas de précipité, il y a une nouvelle bande de précipité. Et ces bandes sont organisées de la manière suivante. Elles sont formées à des instants bien précis. Autant T1, on ferme la première bande X1, autant 2, la deuxième bande en position X2, etc., etc. Chacune de ces bandes a une largeur ou une épaisseur, que j'appelle le WN. Et ce que vous avez fait à une dimension, vous pouvez le faire en deux dimensions également. Vous reconnaissez là probablement une de ces couches de agate, de pierre agate, quand vous pouvez acheter ça dans des magasins de minéralogie, ils vous vendent de ces tranches d'agate comme ça. Et c'est la même situation. Il y a des bandes qui ne sont pas bien sphériques là, parce que tout ça s'est fait sous pression lors de la formation géologique. Vous pouvez faire ça vous-même aussi à trois dimensions, si vous n'avez pas beaucoup de chance. Et si vous avez un problème rénal, vous faites des calculs rénaux. Et ces calculs rénaux ne sont pas évacuables par les voies qui sont habituelles. Et ces calculs rénaux doivent être enlevés d'une façon qui est chirurgicale. Alors si vous avez le malheur d'être dans ce cas-là, je dis le malheur parce que c'est très douloureux avant que vous soyez opéré, vous demandez à votre chirurgien de vous préserver ces pierres qu'il a extraites. Vous pouvez les scier en deux parties quand vous êtes à la maison et vous verrez les structures apparaître, les anneaux de Lissegang qui apparaissent. Et vous pouvez retourner voir votre chirurgien et lui dire « Voyez, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous ne connaissez pas la structure de Lissegang, mais voilà. » Donc, c'est un phénomène qui est général dans beaucoup de circonstances. Et ce qui est intéressant, et c'est un des intérêts pour lesquels les gens se sont arrêtés à ça, c'est qu'il y a des lois génériques qui gouvernent la formation de ces structures. Comme je vous ai dit, une chose encore, une fois formées, ces choses sont irréversibles. Donc elles restent dans cet état pour un an, deux ans, etc. Il n'y a pas de phénomène de décomposition. Donc c'est vraiment un phénomène irréversible. Alors, ces lois génériques seront les suivantes. Elles se forment à des endroits que j'appelle Xn. Alors là, je parle de cette situation qui est unidimensionnelle. C'est une expérience à trois dimensions. Le tube est trois-dimensionnel, mais il y a une symétrie axiale. Donc, les anneaux apparaissent à des positions Xn, à des temps de formation bien définis, et ont une largeur aussi bien définie. Il y a une loi qui relie la position de formation de la bande N au temps de formation, et on reconnaît un coefficient de diffusion et c'est le coefficient de diffusion du front de réaction A plus B donne C. Plus étonnant, en un sens, c'est qu'il y a une loi où on a vu que les bandes étaient de plus en plus espacées. Et elles suivent une progression géométrique. Le xn est proportionnel à 1 plus p à la puissance n, où p, c'est un paramètre qui caractérise cet espacement des bandes. 1 plus p est supérieur à 1. Ensuite, il y a la loi de la largeur. On a vu que ces bandes étaient de plus en plus larges, et la largeur de la énième bande, c'est essentiellement xn à un exposant qui est essentiellement un exposant proche de 1. Il y a encore une loi qui vous met certaines restrictions sur le paramètre P. P n'est pas universel du tout, mais il dépend de la concentration de vos électrolytes B0 et A0. Et c'est exprimé sous une équation de cette forme, où les expressions de F et G ne sont pas universelles, mais c'est des fonctions qui taille-croissent en leur argument. Alors voilà la situation expérimentale à la fin du 19e siècle. Et, alors, sur ce problème, il y a des milliers d'articles qui ont été écrits, tant en théorie qu'en expérience. Il y a une littérature qui est quasiment infinie, mais c'est normal vu la durée. Et bien qu'il y ait beaucoup de littérature, c'est encore des problèmes qui sont ouverts. Et le tout repose sur le fait qu'il y a beaucoup de modèles qui expliquent comment on passe de A plus B au précipité, avec un élément intermédiaire ou sans élément intermédiaire. Et ces théories, je ne peux pas vous les résumer, là, il y en a un paquet. Donc je ne veux pas donner crédit à ce qui a été fait jusqu'à présent dans les temps anciens. Mais c'est des théories qui ne sont pas toujours très satisfaisantes pour, en tout cas, un physicien. Il y a beaucoup d'étapes intermédiaires qui ne sont pas très simples à comprendre. Et surtout, il y a beaucoup de... C'est des modèles avec des seuils, et ces seuils ne sont pas accessibles expérimentalement. Donc c'est des seuils mis de façon ad hoc, et on ne peut pas très bien voir d'où viennent ces seuils, etc. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire une nouvelle approche pour expliquer ces phénomènes, basée sur le fait qu'il y a une réparation de phase dans le système. Et les ingrédients sont deux ingrédients. C'est essentiellement le fait de reconnaître qu'il y a un front de réaction et de diffusion dans le problème. Et une fois que ce front avance dans le gel, il pose dans son sillage des particules C, et ces particules C ont tendance à s'agréger si elles sont assez dense et si ce n'est pas à haute température. Et c'est bien les conditions qui sont expérimentales. Tous ces phénomènes se passent à basse température puisqu'on observe l'irréversibilité du processus du phénomène. Donc, les C particules qui sont créées par le front, qui sont créées à l'arrière du front, elles peuvent bouger dans le gel, mais uniquement par des phénomènes de diffusion, et il n'y a pas de flot de particules non diffusives. Alors, c'est ça les principaux ingrédients de notre modèle. C'est un modèle qui est extrêmement simple. Alors, comme toujours en physique, on peut faire une représentation de cette réalité à plusieurs niveaux. Un niveau qui est le plus microscopique, et un niveau qui est un peu plus grossier à l'échelle qui est plus macroscopique. Et ces phénomènes sont observés à l'échelle plutôt macroscopique, donc une description à l'échelle macroscopique devrait suffire essentiellement pour répondre à la majorité des problèmes posés. Mais regardons d'abord ce qui se passe au niveau qui est mésoscopique. Et là, on retrouve un modèle bien connu, une analogie bien connue avec le modèle des Higgs. En effet, si vous supposez que le gel est formé, est formé par un réseau régulier, et en chaque site du réseau, il y a une particule C où il n'y en a pas. Donc c'est un modèle à deux états par site, et le modèle à deux états par site le plus connu de tout le monde, qui n'ont jamais entendu parler de Lise-Gang, c'est le modèle d'Ising, évidemment. Et puis à une échelle, donc là je vais revenir brièvement sur ce modèle microscopique, sur ce modèle mésoscopique. Si vous regardez à une échelle plus grossière, vous aurez une transcription en termes de variables hydrodynamiques, au sens usuel des variables hydrodynamiques, et vous aurez une description en équation de Langevin. Alors, regardons ce qui se passe au niveau microscopique. J'ai un modèle de type Ising, et si un site du réseau est vide, je lui associe un spin Ising down, en bas, et si au contraire, le spin, le site du réseau est occupé par une particule C, je dis que c'est un état avec un spin orienté vers le haut. Donc, initialement, il n'y a pas de spin up, puisque donc le front n'est pas encore arrivé. Il n'y a que des spin down. Et alors, le front arrive et il renverse des spins, il peuple le réseau avec des particules C, donc il renverse certains spins de l'état du spin down en spin up, et c'est une dynamique qui est appelée de Glauber dans le cadre de la dynamique des spin Ising. Ensuite, ces particules C qui sont sur le réseau, elles diffusent, comme on l'a vu, et en termes de spin, c'est décrit par un échange, un processus où il y a échange, un spin, il change sa place sur le réseau avec un spin voisin. Et c'est un modèle bien connu dans la dynamique des spins, c'est la dynamique de Kawasaki. Et alors, il y a une interaction attractive entre les C et la température est très basse puisque les structures, une fois formées, elles sont gelées. Donc, c'est ça les ingrédients du modèle, etc. Alors, voyons ce que ça veut dire maintenant. Je parle parfois en termes de cette aimantation. Hein, c'est l'aimantation du zinc qui va des valeurs moins 1 à plus 1. Et c'est relié aux concentrations de particules C qui sont entreposées par le front avec cette relation simple. Alors là, vous connaissez tous le diagramme de phase du modèle d'Ising. C'est cette aimantation en fonction de la température. Et il y a trois zones dans ce diagramme de phase. Il y a des états instables qui sont là au milieu, qui sont séparés des états du métastable par une courbe qui est la spinodale, la courbe spinodale, et extérieurement, vous avez des états donc, à l'équilibre. Alors, il se passe quoi dans notre modèle de front de réaction et de diffusion? On part initialement avec un état où il y a une aimantation qui était moins 1, donc il n'y a pas de C dans le système. Donc on est dans un état qui est stable, ici, il ne se passe rien. Le front arrive et il entrepose du point de vue local une certaine proportion de C. Et supposons qu'il dépose cette proportion de C à l'intérieur de l'état instable. Alors, à très court temps, très rapidement, cet état instable, il se redécompose en deux états, donc à l'équilibre. Un avec une aimantation qui reste très négative, ou une valeur de C qui est très petite, et une autre, une valeur de C qui est assez grande. Donc, vous avez la formation locale de ce qu'on va appeler une bande, une zone riche en C. Et ces sites au voisinage de cette zone riche en C vont encore rajouter par les effets d'interaction et de diffusion des particules C vont donc élargir la bande. Mais quand il y aura suffisamment de C auront été donc attirés et seront allés sur la bande, alors il n'y aura plus de C et vous retournez à un état qui est stable. En attendant que le front, qui évolue toujours dans le temps, vous ramène suffisamment de C pour vous ramener dans le réseau instable. Donc, dans ce scénario-là, votre création de ces bandes de Lisegang, c'est dû à un passage quasi-périodique de la phase qui est stable ici, qui est à un régime instable qui vous crée la séparation de phase. Donc c'est cette oscillation quasi-périodique qui devrait vous amener au résultat cherché. Alors ça, il faut le chercher. Alors c'est ce que je vous dis, c'est cette oscillation entre les états stables et les états instables. Et donc la principale hypothèse de ce modèle, c'est que le front est quasi-périodique, de façon quasi-périodique, driven dans le régime instable. Alors, vrai ou pas, donc ça, c'est la phénoménologie que vous voyez avec les mains, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, vous pouvez faire le modèle du mésoscopique, où vous simulez sur un réseau régulier le modèle de type Ising, avec les phénomènes dynamiques que je vous ai décrits, et vous voyez effectivement apparaître des bandes. C'est très demandant parce qu'il faut que l'échantillon soit évidemment à trois dimensions. Et si vous n'êtes pas à trois dimensions, il y a le problème avec les fluctuations. Donc on a dit jusqu'à présent, on ignore les fluctuations parce que c'est un état à basse température. Mais tout ça, ça reste à discuter. Et c'est une question sur laquelle je reviendrai à la fin si on a suffisamment de temps. Mais alors, essayons de regarder à une échelle plus grossière, au niveau des équations de Langevin. Alors, c'est quoi la version grossière du phénomène que je vous ai représenté avant de diffusion? C'est de représenter cette évolution d'une grandeur moyennée, d'une aimantation qui est macroscopique, une aimantation locale au niveau hydrodynamique, en termes de cette aimantation et de ses puissances. Et c'est un problème bien connu, c'est les équations de Kahn-Hilliard. En mécanique du type Ising, c'est connu sous le nom du modèle B en critical dynamics. C'est deux approches identiques, une fois utilisées par les métallurgistes plutôt, l'équation de Kahn-Hilliard, une fois intéressé surtout par les gens qui travaillent sur les modèles d'Ising. Alors, j'ai écrit ici cette équation de Kahn-Hilliard. Cette partie-là décrit le processus de diffusion pure. Mais évidemment, il faut maintenant ajouter un terme source. C'est le terme source qui exprime le fait que le front, en avançant, en diffusant, y dépose des particules C. Alors, ce front, on retrouve le problème qui est exposé tout à l'heure donc, par Bernard. Ce terme source a été étudié en grand détail, en premier par le papier de Raz et Galfi en termes de champ moyen, et ensuite, en grand détail, par des méthodes de groupe de renormalisation, des méthodes numériques. Et on apprend quoi? On apprend qu'il y a une valeur critique dC égale 2, et en des dimensions, en dimension 1 et 2, les fluctuations sont importantes. En dimension 3, les fluctuations sont négligeables, et on peut utiliser les résultats obtenus en champ moyen. Et comme on l'a aperçu tout à l'heure, ce front obéit à certaines propriétés bien connues. Il diffuse avec une constante DF, et cette constante DF est donnée explicitement en termes des concentrations des électrolytes B0 et A0 à l'aide de cette relation-là. C'est une gaussienne avec une largeur qui croît en puissance avec le temps et une amplitude qui décroît comme le temps puissance moins 2 tiers. Donc tout ça, c'est des résultats bien établis bien avant qu'on parle de l'Isegang. Et alors, il se passe quoi? Alors, vous intégrez, vous retournez à votre équation ici, votre équation du modèle B ou de Cagnillard, et vous intégrez ça numériquement. Vous n'avez pas de chance de résoudre ça analytiquement, mais vous l'intégrez numériquement, et le résultat des courses est ce résultat-là. Vous voyez, vous avez effectivement production de bandes qui sont de plus en plus larges, de plus en plus espacées. Et si vous analysez ce type de données numériques, vous voyez que les lois génériques que vous vouliez reproduire sont très bien reproduites. Donc, ça vous dit que ce modèle fonctionne dans le cas simple. Mais vous aimeriez faire mieux que ça. Oui, alors je vais un peu avancer tout ça plus rapidement. On aimerait faire mieux que ça en ce sens que les expérimentateurs ont progressé depuis les 1896 et ont reproduit des structures inverses, donc où les bandes sont de moins en moins espacées et de moins en moins larges. Donc, ils ont aussi produit des bandes régulières, ce qui est intéressant pour du point de vue des applications technologiques. Donc, en voyant ça, on se demande si ce scénario que l'on propose, ce nouveau scénario, est capable d'expliquer ces nouveaux résultats expérimentaux ou pas. Et ensuite, on peut être plus ambitieux. On peut dire, au lieu de vouloir analyser certains résultats expérimentaux, est-ce qu'on peut produire un algorithme pour créer un motif, pour créer un pattern? Et c'était ça le but de notre travail pour aller plus loin dans cette théorie. Il y a un intérêt à proposer un algorithme pour faire le processus inverse, parce qu'au lieu de graver un pattern dans du gel comme on peut faire dans des processus actuels, on pourrait créer un pattern voulu à partir de la base, de le créer à partir des composés chimiques. Alors, ceci, ça demande évidemment de généraliser la théorie avec laquelle on travaille, et la généralisation a été faite dans deux directions. En ajoutant sur notre scénario un nouveau champ, un champ de guidage, c'est le champ qui va de gouverner la formation du nouveau pattern. C'est une première approche du scénario. La deuxième approche, c'est de réaliser que les éléments chimiques ne sont pas forcément neutres, mais ils peuvent se décomposer. Le A, ça peut être un. Ça peut se recomposer en ions A plus et A moins, B en B plus et B moins, et c'est seulement les A moins et les B plus qui réagissent et qui créent le C. Et le rôle du B moins et du A plus, c'est pour assurer cette électroneutralité du point de vue local. Et si c'est ça la situation que l'on a affronté, alors on peut se demander, il se passe quoi si j'ajoute sur mon système un courant électrique extérieur ou un champ électrique, une tension électrique. Et vous voyez que ceci, ça peut avoir un effet qui est drastique, puisque en fonction du fait que ce champ ait une valeur de polarité ou l'autre, ça peut éloigner ou rapprocher les espèces qui réagissent. Donc, ça modifie la valeur de C dans le scénario qu'on a de composition, et ça peut varier, les coefficients de diffusion peuvent être modifiés dû à la présence de ce nouveau champ, de ce champ électrique. Donc c'est ça les deux scénarios que l'on a envisagé et développé. Alors, le premier, c'est un champ de guidage. C'est une idée qui est assez simple en principe. C'est que cette équation qui régit la formation de ces bandes, qui est reproduite ici, c'est l'équation de Kahn-Hilliard, avec ce coefficient ici, epsilon, et qui est fixé, l'epsilon est quelque chose de positif au-dessus de la température critique dans le diagramme de phase de décomposition subnodale, et est négatif dans l'autre sens, ou c'est plutôt l'inverse, peu importe. Cette idée, c'est de rajouter un champ extérieur au système et qui permet de jouer sur ce epsilon et en faire un epsilon qui dépend de la position et du temps. Alors, la dynamique n'est plus gérée par l'équation de Kahn-Hilliard, mais par une équation qui est non autonome, puisque ce champ extérieur va changer la position de la spinodale et va permettre de gouverner en fonction de la valeur de ce champ de guidage, où va se trouver la spinodale et où les nouvelles bandes vont être formées. Alors, tout ça, ça peut être fait en prenant notre éprouvette, hein, que je double, je la remplis avec du C, du précipité C, et je refroidis les deux extrémités, par exemple. En refroidissant les deux extrémités, je fais bouger, le champ de température va évoluer au cours de l'espace et du temps. Je fais des choses qui sont un peu courtes maintenant. Le champ epsilon va obéir une équation de Fourier pour la conduction de la chaleur. Et donc, cette solution-là va dire que le champ de guidage, il varie en fonction de X et du temps. Et donc, vous pouvez jouer avec la valeur de ce coefficient de diffusion lié à la loi de Fourier de la température, et vous pouvez reproduire, vous pouvez réintégrer vos équations du mouvement, vos équations de Kahn-Hilliard comme précédemment, en jouant maintenant sur les valeurs de C0 ou les valeurs de ce nouveau facteur D de diffusion. Et je vous donne un ou deux exemples numériques ici. Vous voyez ici, vous avez un pattern qui est plutôt en inverse pattern. Vous voyez que les bandes, elles se resserrent, elles viennent de plus en plus étroites. Donc vous pouvez effectivement créer. Ça, c'est un cas où les bandes sont bien équidistantes, hein, essentiellement. Et là, vous avez un troisième exemple où les bandes sont inverses avec un espacement qui est large au départ et de plus en plus étroit. Donc ce scénario, il mériterait d'être analysé en plus de détails, mais vu le temps qui m'est imparti, je vous ai donné l'idée, je pense, c'est l'idée qui compte. Le problème suivant, c'est de mettre un champ électrique ici qui fait qu'il y a que le champ électrique, ça va donc influencer à la fois le C qui est très posé à l'arrière du front et qui peut aussi influencer le mouvement de ce front-là. Donc, c'est des problèmes en soi à résoudre et c'est un cas assez difficile, de nouveau. Et je vous résume les situations. Il y a le cas où U est plus grand que 0, donc c'est le cas où les ions qui réagissent sont rapprochés par le champ électrique. Et il y a le cas opposé où les ions sont éloignés l'un de l'autre, où les ions qui réagissent sont éloignés l'un de l'autre. Alors, je fais les choses courtes, sous certaines hypothèses qui rendent les choses simples. On voit la chose suivante. Quand on a une tension qui favorise la réaction, le front il diffuse aussi d'une façon traditionnelle, avec un coefficient qui est un peu affecté par le champ, mais en première approximation, il n'est pas affecté. Ce qui est affecté, c'est la production de C qui est laissée par le front. Et cette cette grandeur-là croît linéairement avec U et avec X. Donc vous avez un gradient de concentration qui est derrière le front. Dans le cas opposé, le front qui ne favorise pas une tension qui ne favorise pas la réaction, vous avez toujours un front qui diffuse de façon habituelle avec un très léger drift ici, mais c'est très petit. Et vous avez au contraire une concentration qui diminue en fonction de X et de U et qui éventuellement peut s'en aller, ne plus être là et disparaître. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez jouer avec une valeur alternative de la tension. Là, ça résume les positions XF du front en fonction de T. C'est tout quasiment quelque chose de diffusif, comme c'est en général. Mais là, vous avez la création de C, dans le cas qui encourage les ions de se rencontrer, et là, la création de C qui éloigne les ions réactifs. Et en jouant de façon alternative avec U, vous voyez, vous pouvez créer une bande avec du C, vous inversez la tension, il n'y a plus de bande qui est possible, vous retournez dans la région où il n'y a plus d'instabilité, et vous oscillez de cette façon, etc. Donc, en fonction du choix, du temps à laquelle vous inversez la tension, vous pouvez créer un pattern arbitraire dans la problématique. Donc, voilà un ou deux exemples, disons, où vous changez la tension à des instants qui suivent ce type de loi, et vous voyez que vous pouvez créer des patterns très différents. Donc, vous pouvez exploiter ça plus à fond et vous pouvez encoder un message arbitraire en termes de bande de Lisegang. Là, nous avons pris cet exemple avec ce nombre magique. Je ne sais pas pourquoi il est magique, mais il y a des gens qui trouvent que c'est un nombre magique. 42. Vous transduisez ça en code Morse. C'est dot, 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 slash, etc. Donc, vous voyez... Dot, c'est des bandes minces qui représentent les dots, une bande plus large qui représente le dash, et un espace et la deuxième lettre avec son deuxième code Morse. Donc, ce qu'on peut faire pour ce numéro stupide, on peut le faire pour le Collège de France, on peut le faire pour n'importe quel message qui peut être encadré comme ça, encodé comme ça. Donc, en conclusion, vous voyez que ces problèmes de création de motifs dans ces systèmes, c'est un système qui est très riche, et je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Il y a plusieurs problèmes ouverts dont je pourrais parler encore pendant des heures. Il y a encore énormément à faire dans ce domaine-là, et ça intéresse les gens qui font justement des structures au niveau qui est du mésoscopique. Le problème, c'est de travailler sur la taille de ces objets. Mais c'est une approche qui est utilisée à des fins industrielles maintenant, pour essayer de produire des patterns autre chose qu'en enlevant la matière depuis l'extérieur, mais en créant le pattern de façon directe avec ces systèmes de réaction et de diffusion. Voilà, je m'excuse, j'ai donné crédit à personne parce que sur les 1000 et plus de 1000 articles qui ont été écrits là-dessus et les 30 que nous avons écrits nous-mêmes dans notre groupe, je ne voulais pas noyer ça par des références inutiles, mais il y a une liste de références pour ceux qui sont intéressés. Il y en a un ou deux. Voilà. C'est tout ce que je veux dire, je crois. Je vous remercie de votre attention.